France Inter.
Vous écoutez France Inter, nous sommes le vendredi 29 août, c'est la rentrée sur France Inter et il est 5h.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce petit matin sur France Inter. Un beau programme pour ce premier 5-6 de l'année scolaire. Retour à la mer, on vous emmène dans une île très lointaine avec les chroniques littorales. Et on vous propose une balade aquatique à 5h45 avec notre invité déjà debout, qui est moniteur de longe-côte, ce sport marin très à la mode. Avant 6h, on va groover avec Azab Rocky dans la playlist, rencontrer un maire du Pas-de-Calais et sortir doucement de la nuit grâce au Café Philo. Bon réveil, vous avez le programme et je vous accompagne pendant 4 heures sur France Inter.
France Inter.
Et on commence avec le journal de Victor Costa-Mounier. Bonjour Victor.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Il devait se retrouver lundi, ça sera finalement ce matin.
Les syndicats se réunissent tout à l'heure, à 8h, au siège de la CFDT à Paris. Une réunion avancée en urgence, suite à l'annonce de François Bayrou de se soumettre à un vote de confiance des députés. Les syndicats doivent discuter de l'organisation d'une journée de mobilisation en septembre contre le projet de budget du Premier ministre. Mais Alexis Morel, ça ne sera pas le 10 septembre.
Oui, car les centrales ne sont pas au diapason sur le mouvement Bloquons Tout. Certaines dans un soutien plus ou moins appuyé, de Solidaires à la CGT. Les autres bien plus distantes. La CFDT ne se reconnaît pas dans les modes d'action. Force ouvrière s'inquiète de certains mots d'ordre anti-syndicaux. Toutes, en revanche, sont favorables à l'organisation d'une journée de mobilisation interprofessionnelle plus classique. En septembre, là aussi, mais un autre jour. Même si l'instabilité politique, l'incertitude sur le calendrier des semaines à venir complique la donne, reconnaît Cyril Chabanier de la CFTC.
Organiser une manifestation contre ce budget dans un moment où le gouvernement et donc le budget risquent de tomber, là est la difficulté pour nous. Mais en même temps, c'est important quand même d'aller vers cette journée de mobilisation parce qu'il y a un gouvernement qui va arriver après. Donc il y a de grandes chances qu'on ait un budget qui soit repris quasiment à l'identique.
La colère syndicale ne devrait donc pas faiblir, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, cette semaine, les quelques ouvertures du Premier ministre, par exemple sur une contribution spécifique des plus riches dans ce budget, n'ont vraiment pas suffi à rassurer.
Alexis Morel, service économie et sociale de France Inter. Le Premier ministre s'exprimait, lui, hier devant le MEDEF et il reste optimiste avant le vote de confiance auquel il se soumettra le 8 septembre prochain à l'Assemblée. Le vote se fera sur une déclaration de politique générale axée sur la situation des finances publiques et de la dette de la France. Une question qui commence à travailler dans l'opinion, selon le Premier ministre, pour qui tout peut bouger dans les 11 jours qui viennent. Avant cela, il doit recevoir les partis politiques à Matignon, du moins ceux qui n'ont pas refusé l'invitation. LFI et les écologistes qui voteront contre la confiance ne viendront pas. Le RN qui considère la page Bayrou tournée rencontrera tout de même le Premier ministre. Les Républicains, eux, ont rendez-vous mardi. Les Républicains qui ont tranché sur ces candidatures, sur leur candidature à Paris, pardon, Rachida Dati sera candidate pour les municipales de 2026. Elle laisse en revanche sa place à Michel Barnier, candidat officiellement investi pour la législative partielle dans la deuxième circonscription.
Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz se retrouvent aujourd'hui à Toulon.
Ils présideront un conseil des ministres commun où il sera question notamment de défense, de compétitivité et des grands enjeux diplomatiques du moment, garantie de sécurité à l'Ukraine ou nucléaire iranien. Préambule, hier soir, Emmanuel Macron a reçu Friedrich Merz au fort de Brégançon, réunion de travail et dîner en tête à tête, une marque d'attention réservée seulement à deux autres chanceliers allemands par le passé, Helmut Kohl et Angela Merkel, de quoi mettre en scène l'amitié retrouvée entre Paris et Berlin, Marie Mollet.
Une réunion de travail au milieu des lauriers roses. En haut du piton rocheux, rade de Toulon à l'horizon, un décor pour célébrer l'intimité franco-allemande, comme le dit l'Élysée, après des années de relations fraîches quand Olaf Scholz était chancelier. C'est du passé, à entendre Emmanuel Macron.
Nous avons lancé ensemble une nouvelle page de la relation franco-allemande, cette volonté d'avoir un réflexe franco-allemand. Ce Conseil des ministres, pour moi, est un tournant.
Et Friedrich Merz, en français.
Honneur exceptionnel pour nous d'être ici. Surtout une preuve que l'amitié qui nous unit, la France et l'Allemagne, mais aussi entre nous deux, toi et moi,
Et la relance du moteur franco-allemand ira au-delà des mots, assure l'Élysée, qui promet du concret, des feuilles de route communes sur la compétitivité ou la défense. Tant pis si la liste des différends entre Paris et Berlin reste longue, Mercosur, nucléaire français ou le projet d'avion de combat du futur. Mais la mise en scène léchée sera tout de même plombée par les soucis de politique intérieure d'Emmanuel Macron. À Toulon, aujourd'hui, il fait venir 10 de ses ministres pour venir poser sur la photo de famille avec leurs homologues allemands, alors qu'ils se savent sur le départ et se projettent vers une gestion des affaires courantes. Étrange moment de sursis immortalisé tout à l'heure à midi.
Marie Mollet, service politique de France Inter. Friedrich Merz qui a lancé hier qu'il était évident que la rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky n'aurait pas lieu. Après la frappe russe qui a touché Kiev dans la nuit de mercredi à jeudi, le dernier bilan fait état d'au moins 23 morts, dont 4 enfants, frappe condamnée par la France et le Royaume-Uni notamment. Donald Trump, lui, s'est dit pas content, mais pas surpris, alors qu'il a vivement œuvré ces dernières semaines pour la tenue d'une rencontre entre les chefs d'État russes et ukrainiens.
Un stade en feu à chaque match, fermez les guillemets.
Le directeur du football de l'Olympique de Marseille, Mehdi Benatia, ravi du tirage au sort réservé à son club. Pour la nouvelle saison de Ligue des Champions de football, en phase de Ligue, les Marseillais affronteront à la maison Liverpool, l'Ajax d'Amsterdam, Bergame et Newcastle, et se déplaceront notamment sur la pelouse du Real Madrid, tout comme Monaco, qui jouera contre Manchester City et la Juventus de Turin, entre autres. Grosses écuries donc pour les clubs français. Le Paris Saint-Germain, lui, semble le plus mal loti si on regarde bien tous ses adversaires, Nicolas Perronnet.
Deux clubs espagnols, le Barça et Bilbao, deux Anglais, Newcastle et Tottenham, tous les deux au Parc des Princes, deux Allemands, le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen, un Italien, l'Atalanta Bergame et un Portugais, le Sporting Lisbonne. 16 pays étaient représentés dans ce tirage, mais le PSG n'affrontera donc que des représentants des meilleurs championnats européens. Aucune raison de douter au moment de remettre son titre en jeu, mais pas d'exotisme sur la route, uniquement des formations avec une forte culture Coupe d'Europe. Du solide, mais du connu aussi. L'automne et l'hiver parisien auront un petit parfum de déjà-vu, des retrouvailles avec le Bayern Munich, qui l'a battu l'an dernier, avec Newcastle et Tottenham, rencontrés également récemment, à chaque fois avec difficulté, mais aussi et surtout avec le meilleur ennemi, une affiche aux allures de finale à Barcelone, un duel entre les deux grands favoris de la compétition et entre les deux joueurs les plus impressionnants de la saison écoulée, Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.
Nicolas Perronnet en basket et du côté des équipes nationales cette fois. Premier succès pour les Français à l'Euro. Les Bleus ont battu hier la Belgique, 92 à 84. Rendez-vous contre la Slovénie de Luka Doncic demain à 17h. Il était garçon de cabine à 15 ans sur les navires de la Compagnie Générale Transatlantique et à 20 ans engagé dans la marine et dans la résistance. On a appris hier soir la mort de Paul Leterrier. À 103 ans, il était le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim en 42. Bataille décisive pour la France durant la Seconde Guerre mondiale.
Merci Victor Costa-Mounier. Il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec la MAE. À l'école ou en vacances, l'assurance scolaire MAE protège vos enfants par tous les temps. MAE, grandir avec assurance.
Attention aux orages encore aujourd'hui, Olivier Proust.
Une nouvelle perturbation orageuse a abordé la pointe bretonne et arrose cette nuit le Grand Ouest. On la retrouvera ce matin du sud-ouest vers le nord avec de fréquentes averses orageuses. Celles-ci se décaleront vers le flanc est cet après-midi, tandis qu'à l'arrière, un risque d'averses orageuses plus localisées persistera malgré des éclaircies. La Méditerranée retrouve un temps globalement sec aujourd'hui et partout, le vent d'ouest finira par être soutenu avec des rafales à 50-70 km/h. Les températures poursuivent leur baisse aujourd'hui avec 19 à 29 degrés de la Manche à l'est Corse cet après-midi. Demain, un temps plus calme concernera la quasi-totalité du pays avec des températures en petite hausse, mais déjà de nouvelles pluies circuleront en Bretagne, prémisse à un dimanche plus agité. Les averses seront assez fréquentes, orageuses dans le quart sud-ouest.
Olivier Proust de Météo France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
5h09 à suivre sur France Inter. Encore un peu d'embrun ce matin. Portrait d'une île dans les chroniques littorales. Elle se trouve à 11 000 km de nous, au large du Mexique. À 5h45, notre invité déjà debout nous replonge dans la mer pour une séance de longe-côte matinale. C'est son métier, il est moniteur de longe-côte. Souvenir de vacances, toujours Cyril Lacarrière se demande d'où ça sort l'extrême day tripping. Explication à suivre. Et puis l'humour de Tanguy Pastureau avec une cible de choix aujourd'hui. le Premier ministre. Mais avant tout ça, on danse au saut du lit grâce au Britannique d'origine nigériane Obong Jayar. Il chante Sweet Danger sur France Inter. Obong Jayar avec Sweet Danger, 5h12 sur France Inter. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Chronique Littorale. Bonjour José Manuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Vous nous faites voyager encore ce matin. Exceptionnellement, votre chronique ne dresse pas ce vendredi le portrait d'un homme ou d'une femme de mer, mais d'une île de l'autre côté de l'Atlantique.
Oui Marion, un portrait à 11 000 km depuis la métropole. Il s'agit de la Passion Clipperton. Alors la Passion Clipperton, c'est une île au large du Mexique. Il y a un lac, il y a des rats, il y a des oiseaux, il y a du guano, il y a des crabes, et puis c'est tout. Pour en parler justement de Clipperton, pour faire ce portrait, eh bien le président de l'association La Passion Clipperton, qui est Stéphane Dugast, explorateur et marin. Stéphane Dugast, bonjour.
Bonjour José Manuel.
Cette Passion Clipperton, avant on l'appelait Clipperton, maintenant c'est la Passion Clipperton.
Oui, depuis 2016, elle a repris son nom français parce que figurez-vous qu'elle a été découverte en 1711 par des marins français, qu'elle a perdu son nom pour un nom à consonance britannique et puis les destinées des États-Unis, du Mexique, de la France et de bien des pirates, oserais-je dire, s'y sont mêlés. Et cette île de Clipperton est définitivement française depuis 1931, mais inconnue de nos concitoyens.
En plein Pacifique, au large du Mexique, les Mexicains la réclamaient, mais non, ça c'est pas possible. Seulement, voilà, la Passion Clipperton, aujourd'hui, il faut s'en occuper.
Oui, parce que j'y suis allé une première fois en 2001, une seconde fois en 2003 avec l'explorateur Jean-Louis Etienne, une troisième fois en 2015 et la dernière fois au printemps 2023. Et à l'échelle de ma vie, j'ai vu ce petit point sur une map monde, cette tête d'épingle perdue dans le Pacifique, être d'abord une île mystérieuse, celle que j'avais lue dans Jules Verne, être l'île au trésor, celle que j'avais lue dans Stevenson, et devenir l'île sentinelle, l'île poubelle, l'île des paradoxes et l'île de ma colère.
L'île de votre colère, et il faut le savoir, c'est inhabitable, hein, Clipperton.
Elle pourrait être habitable par des scientifiques.
Oui.
Elle pourrait. Et en fait, Clipperton, son intérêt, c'est que tout autour, dans un rayon de 200 000, 360 km pour les terriens, soit la superficie de 80% de la France hexagonale, vous avez une zone économique exclusive, un immense jardin maritime. Et dans ce jardin maritime, il y a des requins, il y a des thons, il y a des poissons tropicaux. Bref, il y a plein de richesses de la biodiversité. Et à l'heure où on parle de la protection et de la valorisation des océans, Clipperton, la passion Clipperton est un exemple parlant.
Alors vous êtes un marin, je ne vais pas vous poser la rituelle question, c'est-à-dire que c'est ce que ça veut dire la mer pour vous, mais qu'est-ce que veut dire Clipperton pour vous ?
Bah, Clipperton, c'est devenu mon île. Non, pas mon île, mais c'est devenu celle qui m'a transformé. Qui de journaliste, reporter, explorateur, aventurier en papier, j'étais un explorateur en papier, m'a véritablement transformé et me donne envie de la défendre autant pour défendre ses trésors, sa biodiversité, mais aussi la valoriser, puisque cette île est pour moi l'île de tous les possibles. Et j'espère, de mon vivant, voir des hommes et des femmes s'y employer, comme à l'instar de ce qui se passe avec les îles colombiennes, équatoriennes, etc. Et on le voit, les océans parlent aux gens, les atolls des possibles, et je pense qu'avec la montée du niveau des océans, tout ça est très inquiétant.
Il y a quelques semaines, nous avons vécu l'UNOC, la conférence des Nations Unies pour l'océan. Beaucoup de choses se sont déclarées à l'UNOC pour la sauvegarde des océans, pour la sauvegarde de la haute mer. Il faut aussi sauvegarder Clipperton.
Oui, et ces aires marines protégées, on en a beaucoup parlé. Mais ces aires marines protégées, il faut non seulement évidemment les protéger, mais les surveiller. Le problème de Clipperton, José Manuel, on l'a dit, c'est inhabité, c'est isolé, c'est dépourvu de toute infrastructure et que pour l'instant, hormis les bateaux de la marine qui font ce qu'ils peuvent, qui y passent 2-3 jours par an, tous les 2 ans.
Oui, parce que c'est loin Tahiti hein, par rapport
voilà,
à Clipperton.
5000 km, j'ai eu ce bonheur la dernière fois de partir de Papeete. Il y a une escale aux Marquises, un petit salut à Jacques Brel, à tout ce qui nous a fait voyager. Mais Clipperton, bah voilà, il faut qu'on se retrouve les manches, qu'on coopère avec nos amis mexicains, les amis d'Amérique centrale, les États-Unis, et qu'on protège cette zone parce que c'est un des derniers, j'allais dire, sanctuaires de la nature, et c'est impératif à mon sens de protéger, valoriser ces joyaux de la nature.
Merci à vous Stéphane Dugast. On vous retrouve sur votre site stéphanedugast.com. Bonne journée Marion Lourd.
Bonne journée José Manuel Lamarque. Il est 5h16.
Le 5-6 sur France Inter.
À la une de la presse ce matin, ce sujet encore omniprésent, il faut dire qu'il pèse plus de 3300 milliards d'euros. C'est celui de la dette à laquelle François Bayrou a lié son budget et son sort. Dans l'engrenage de la dette, martèle Lacroix, titre illustré par un drapeau français pour le moins effiloché. Budget 2026, pourquoi ça bloque? La réponse est dans l'édito des Échos. Budget 2026, les riches encore dans le viseur, semble déplorer l'opinion, toujours percutant le dessinateur CAC croque un François Bayrou en difficulté face à des manifestants. Le Premier ministre s'approche d'un petit boîtier en cas d'urgence, briser la glace. Et dans ce boîtier, il y a la taxation des riches. L'édito du même journal s'inquiète d'ailleurs d'un possible retour de l'ISF, obsession française. Libération lui montre un chef du gouvernement photographié sur le vif, sur un pied. En apesanteur, c'est le titre de Une. En sollicitant un vote de confiance le 8 septembre, François Bayrou a désarçonné le gouvernement, analyse Le Quotidien. Si ses ministres tentent de donner le change, ils se savent quasiment condamnés. Au chapitre politique encore, Le Figaro s'intéresse, lui, à ce qu'il appelle l'ambiguïté des socialistes face à l'alliance avec Mélenchon. Selon Le Quotidien, la perspective de la dissolution accélère les évolutions à gauche. Sinon, du classique en cet automne, rentrée littéraire pour la Une des Échos magazine. L'UMA s'inquiète du sort des saisonniers en pleine vendange. On parle rentrée scolaire. Dans Le Parisien, c'est lundi et les collégiens seront priés de laisser le portable au placard. Et puis les magazines Elle et Le Figaro Madame sortent leur numéro spécial mode, tenue Bordeaux pour Elle, verte pour Le Figaro. On va enfin savoir comment s'habiller. À 5h18, d'où ça sort, Cyril Lacarrière, dans l'émission Zoom Zoom Zen, nous explique un concept. Aujourd'hui, l'extreme day tripping.
Imaginez, vous prenez l'avion à l'aube, vous déjeunez à Milan, vous posez pour une photo Insta devant la cathédrale. Et le soir,
on y est.
C'est incroyable, Cyril.
Et le soir, vous êtes revenu dormir dans votre lit à Paris.
C'est ça. Quoi, votre lit, il est en métal?
Non, ça c'était l'atterrissage, mon vieux.
Ah, l'atterrissage. Parce que quand vous dites le mot lit, faudrait plutôt le moelleux d'oreiller.
L'appareil photo, il date des années 70.
Oui, mais c'est celui qu'on peut acheter pour l'émission. Hop là, voilà. Eh bien, c'est tout ça, l'extrême day tripping, voyager très loin, mais sans découcher. D'ailleurs, cette idée n'est pas nouvelle. Est-ce que vous vous souvenez du Concorde? Dans les années 70, grâce à l'avion supersonique, on fait Paris-New York en 3h30. Il existe d'ailleurs une sorte de slogan officieux pour les clients fortunés du Concorde: déjeuner à Manhattan, dîner à Paris.
ce phénomène.
Une relance.
Oui, je sais, mais ça me paraît.
Ah, vous êtes bouche bée
parce que, mais oui, parce que c'est quand même une autre époque. C'est quand même fascinant qu'on puisse en faire un argument de vente.
Alors, c'était un slogan officieux, pas officiel.
Entre clients huppés. Ce phénomène, il s'est démocratisé depuis.
Oui, avec les années 2000 et la montée en puissance des compagnies low cost. Un concert à Londres, une expo à Berlin, un aller-retour en express qui coûte parfois moins cher qu'un plein d'essence. Et tout ça, on le retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, il faut voir ces vidéos où on se vante d'avoir parcouru 8000 km juste pour manger des sushis. Vraie histoire. Eh bien, ces vidéos sont vues des millions de fois.
Et d'ailleurs, même certains se font connaître comme ça.
Forcément. L'Américain Kevin Droniak, il a enchaîné France, Égypte et Porto Rico en 24 heures. L'influenceur Léo Skepi s'est gargarisé d'avoir fait Dallas, New York, Dallas en une journée pour manger un wrap. Ils ne sont pas seuls. Il y a 2 ans, un groupe Facebook baptisé Extreme Day Trips rassemblait plus de 200 000 membres. En 2023, un certain Alex Choi lance le site extremedaytrips.com. Il y propose ses conseils pour organiser ses voyages express. Cette année, le Figaro raconte que le phénomène dépasse largement les élites. Le grand public s'y met aussi. Forcément, avec des vols qui coûtent parfois moins de 100 euros, on ne se refuse plus rien. Et tant pis, vous l'avez dit Mathieu, pour Jean-Marc Jancovici qui préconise de se limiter à 4 voyages en avion dans toute sa vie. L'extrême des trippings est un symbole de notre époque, l'envie de tout vivre très vite, tout en dormant dans son propre lit, d'où ça sort l'extrême des trippings. Et bien de là, et ce n'est que le début, Mathieu, de notre histoire.
Cyril Lacarrière dans Zoom Zoom Zen de Mathieu Noël à réécouter sur le site de France Inter. Tous les deux reviennent à 16h cet après-midi pour parler notamment de la rentrée scolaire. Et oui, c'est déjà lundi. À 5h20 sur France Inter, dans un instant, l'humour et le journal. Mais tout de suite, une fête de l'espace alors que le jour se lève. C'est Nuba Galactica par la chanteuse d'origine kabyle Yeli Yeli.
Le temps efface tout.
Nuba Galactica par la chanteuse Yeli Yeli.
France Inter.
À 5h25, c'est l'heure de retrouver Tanguy Pastureau. Tous les matins, dans la bande originale, il maltraite l'info, et notamment le Premier ministre.
François Bayrou par-ci, François Bayrou par-là. Il arrête pas de se faire remarquer, celui-là. Toujours être au centre de l'attention, mais un pervers narcissique. Tout ça parce que monsieur a décidé de prendre ses vacances en décalé en septembre. Hein, pour que ça lui coûte moins cher, c'est un radin, c'est tout. Son but, c'est de payer les deux boules de glace moins 50%. Mais il masque ça derrière un coup de poker politique. Le vote de confiance, il est quasiment tout le monde contre lui. L'unique Français qu'il aime bien a témoigné dans le podcast « J'assume ma différence ». Dans le studio, il y avait aussi le spectateur qui a vu le film « Papa mobile » au cinéma avec Cadmerade. Alors, il essaie de retourner les députés. Hein, Bayrou, il a dit qu'on avait le choix entre le chaos ou la responsabilité. Mais le chaos, on est dedans depuis que Macron a fait lui-même un coup de poker. C'est Winamax, cet exécutif fouté et Bruel dans l'équipe. Son coup de poker, c'était dissoudre l'Assemblée. J'ai une théorie sur Macron, c'est qu'il est totalement cintré. Il a moins de lignes directrices qu'un paraplégique qui serait fait hacker son fauteuil roulant par les Russes. C'est ça, délire des personnes trop jeunes. Il faut revenir à avant. Je veux dire, les gens roulaient leur bosse, élections locales, puis législatives, 22 ans député, un peu de conseil régional. Et seulement là, quand t'étais mûr comme une vieille poire dont on se dit elle est pas mangeable, je vais en faire de la compote, tu te présentais. École Mitterrand, à 65 ans, il entrait à l'Élysée. Ce qui fait qu'il a dû être apte 24 heures avant que sa première hanche claque, mais il avait l'expérience. Là, en 2017, on a élu un candidat The Voice Kid qui nous l'a fait à l'envers en se faisant passer pour un trader alors qu'il avait 3-6 caves. Forcément, ça n'a pas collé. Ça, Mélenchon, il l'a compris, il a 74 ans. C'est le père Fourat animé par la rage d'Attila. Il se dit, c'est à mon tour. Lui, ça fait 15 ans qu'il regarde l'Élysée avec la même tête que le Bernard Lhermitte qui regarde une palourde. Hein, 2027, si ça se trouve, en fait, ça va être lui contre le petit Jordan. On va les voir, on va se dire, tous ceux qui ont un âge normal sont morts, quoi. Hein, un virus a tué tous les quinquagénaires. Qui va aller au théâtre? Hein, alors, Bayrou, c'est vrai qu'il a le prestige d'un vendeur de donuts quand on le regarde, mais là, quand même, il a eu du panache, quoi. Si j'ai pas votre confiance, je pars. Hein, vous imaginez, si tous on se comportait comme ça, moi je dirais, Nagui, si tu ris pas 700 fois sur cette chronique, en extase, torse nu à te frotter sur la moquette, c'est fini. Alors, ok, ce serait fini. Mais quelle fin, quoi. C'est important d'y penser. Je veux dire, une fin de carrière, c'est une petite mort. Il faut pas partir comme Séverine Ferrer, tu vois, où un jour on se dit, mais enfin, ça fait 17 ans qu'on la voit plus. Que s'est-il passé? Regardez l'exemple de De Gaulle. 1969, le pays est en plein chaos. Hein. Il y a eu mai 68, les rues de Paris sont défoncées, comme aujourd'hui avec Anne Hidalgo, qui était au niveau du mobilier urbain l'équivalent de 700 révolutions. Donc De Gaulle décide de faire un référendum, procédé consistant à demander son avis au peuple. Ça se fait plus, hein. Le dernier, c'était sur la ratification du traité européen. Ouais. On a répondu non, les décideurs ont compris oui. On aurait dû dire oui, mais on pouvait pas savoir que c'était une sorte de jeu apéro. Hein, on voyait des débats à la télé, on se disait ça a l'air sérieux, ne jamais croire ce qu'on voit à la télé, m'a dit Nagui. Là, en 69, le référendum portait sur la création des nouvelles régions. De Gaulle s'était dit, c'est dans la poche, quoi. Je veux dire, personne n'est contre les terroirs. Hein, aujourd'hui encore, c'est comme ça. Je veux dire, parler Poitou-Charentes, elle est là, et c'est venu d'émotion. Voilà. Hein, on est obligé de la réveiller à grands coups de jeu de mots d'Oldolaf. Seulement, les Français ont voté non. Pas contre les régions, en fait, contre De Gaulle. Donc, qu'a-t-il fait, cet homme de 2 mètres de haut? Heureusement que la 5G n'existait pas, parce qu'il aurait servi d'antenne relais. Eh ben, fierté, élégance, vexation, sans doute. Le lendemain du référendum, minuit 10, il démissionne. 10 jours plus tard, il se barre en exil en Irlande, avant le réchauffement climatique. Il faisait moins 12. Les gens comme Manteau portaient des moutons vivants qu'ils attachaient autour d'eux avec d'énormes ceintures. On entendait, on se disait, tiens, voilà Malone, quoi. On n'a jamais revu De Gaulle ensuite. Il a vécu reclus comme Séverine Ferrer. Et moi, je trouve ça digne et élégant. Alors, bien sûr, Bayrou va pas partir en Irlande. Ce pays a sombré. C'est un vivier croupissant de champions de MMA et de moutons épuisés par la chaleur. Mais si j'étais Bayrou, je sais pas, j'irais sur Get Your Guide et je regarderais les activités du côté des îles grecques. Je dis ça parce que si on fait les calculs sur le nombre de députés, franchement, c'est fini pour lui. À moins qu'il annonce qu'il a une maladie incurable ou qu'un jour, à Bétaram, il s'est assis par mégarde sur un prêtre un peu excité. Bon, et que les députés, par pitié, se disent « Allez, on lui laisse une chance, quoi !» Non, c'est terminé. On va à peine s'en apercevoir parce que la République sait pas mettre en valeur ces moments-là. Il pourrait s'inspirer de Koh-Lanta, non ? Je sais pas, Bayrou arriverait avec une torche et la Mathilde Panot lui éteindrait avant de le dévorer. Le choix entre le chaos et la responsabilité, c'est pas si évident. C'est comme si on te demandait de choisir entre Peter Doherty et Michel Sardou, quoi. Sardou dirait les cyclistes peine de mort, les gauchistes à Cayenne, les autoboulots à Lesou, que ça file. Peter Doherty débarquerait les cheveux sales avec 7 heures de retard. Et peut-être qu'on peut trouver un mix entre les deux. C'est facile de dire sans moi, c'est le chaos. De Gaulle a fait ça, il a fini en Irlande à végéter devant un feu de tourbe. Quant à la responsabilité, là, dont on nous parle en tant que citoyen, Je sais pas, on a envie de leur dire, les amis, c'est vous qui êtes aux manettes, non? Depuis 40 ans et qui avez fait en sorte que ce trou dans le cochon est plus énorme que son anus une fois qu'on y retirait la broche à méchoui, quoi. Voilà, pardon pour cette image.
Non, mais on l'a. Non, mais
on démarre sur le panache, on finit sur l'anus. Voilà, je crois qu'il est temps que je me retire dans le sud, par contre, à une ville, à une belle.
S'il te plaît, merci, Tanguy Pastureau.
Tanguy Pastureau au micro de Nagui dans la bande originale du lundi au vendredi à 12h10, dans une poignée de secondes sur France Inter, le journal.
Salut, c'est Manu Payette. Tous les dimanches, je vous propose de m'aider à lutter contre le blues. Ce blues du dimanche soir.
France Inter,
oh God.
18h10, Manu Payette.
J'ai pas encore la recette, mais on peut chercher ensemble. Avec de la bonne humeur, de la musique bien sûr, quelques super invités, des jeux. Tiens, on pourrait cuisiner aussi. On va bien finir par trouver.
Studio Payette.
Tous les dimanches, sur France Inter, après le journal de 18h. Pourquoi je fais de la radio? Pour pas être chez moi le dimanche soir.
5h30 sur Inter. Ali Badou vient de me rejoindre dans ce studio pour un avant-goût de ce 6-9 de rentrée. Bonjour Ali.
Bonjour Marion, ravi de vous retrouver.
Moi
pourquoi
aussi.
Est-ce que vous faites de la radio, vous aussi, pour ne pas être chez vous au milieu de la nuit?
Exactement, c'est pour ça.
Au programme de cette matinale et de cette rentrée, pour ce qui nous concerne, à 6h20, votre invitée Marion sera Isabelle Viseux-Poletti, qui est directrice de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui démarre aujourd'hui à 8h moins le quart. Le débat éco, Dominique Seux et Thomas Porcher se demanderont si le FMI frappe vraiment à notre porte. Et dans le grand entretien à 8h20, le malaise des patrons avec nos deux invités, deux chefs d'entreprise, Dominique Carlac et Pascal Demurger. Voilà pour le programme.
À tout à l'heure, France Inter, il est 5h31. Le journal Victor Costa Mounier. Rebonjour Victor.
Rebonjour Marion.
La grande découverte ce matin.
Les elles vont se réjouir de retrouver leur élève préféré au premier rang ou faire les gros yeux devant un emploi du temps à trous. Les 852 000 enseignants font leur rentrée aujourd'hui avant les élèves à partir de lundi. Pour certains de ces nouveaux professeurs, ce sera la première dans l'académie de Créteil. Sonia Princey a rencontré certains d'entre eux motivés et volontaires.
Gabriel, 25 ans, va se retrouver face à des collégiens dès lundi pour leur apprendre l'anglais.
Je suis tout aussi excité que j'angoisse et que j'appréhende. Première fois que je vais être face à des élèves tout seul, là où j'ai eu plusieurs fois d'expérience avec un tuteur ou une tutrice qui était là pour m'épauler en cas de besoin. Là, ça va être du vis-à-vis direct.
Vous allez être aussi stressé que vos élèves, vous pensez?
Non. Non, beaucoup plus. Non, je pense beaucoup plus. Bon, je sais pas, moi, j'étais pas stressée quand je rentrais au collège pour ma rentrée en tant qu'élève, donc je pense que là, c'est ma rentrée la plus stressante.
Alors, pour se rassurer, Apolline, comme la plupart de ses nouveaux professeurs, ont déjà préparé des cours. Domiti, enseignante de français et latin, a travaillé cet été pour ses futurs élèves.
On a quand même envie d'être présent pour eux et de faire les choses bien, parce que c'est vrai qu'un bon professeur, ça peut faire la différence. Je pense qu'on a tous fait l'expérience de bons professeurs qui nous ont marqués, mais aussi de mauvais professeurs qui nous ont marqués.
Et vous allez être quel genre de professeur ?
Peut-être essayer de faire en sorte que certains élèves aient beaucoup moins de phobie scolaire, aient beaucoup moins cette angoisse, cette peur d'être constamment jugés. J'aimerais bien que ces élèves comprennent que ils ont le droit à l'erreur.
Vincent était encore lycéen il n'y a pas si longtemps. Il espère être le professeur qu'il aurait aimé avoir.
Sonia Princey, spécialiste éducation de France Inter. Lui restera à la porte de l'école. Le thon est banni dans les cantines de 8 communes de France. Mont-Sartoux, Bègle ou encore de grandes métropoles comme Paris, Lyon et Rennes. Afin de faire cesser leur exposition au mercure, selon les communes, annonce près d'un an après les révélations des ONG Bloom et Foodwatch, qui avaient alerté sur une contamination quasi systématique des boîtes de thon en conserve.
Pékin se prépare à un défilé militaire.
Dans moins d'une semaine, la capitale chinoise accueillera une grande parade à l'occasion des 80 ans de la Seconde Guerre mondiale. C'est la première fois que le régime communiste organise un tel événement depuis 2019. 26 chefs d'État et de gouvernement seront présents, parmi lesquels le président russe Vladimir Poutine et le leader nord-coréen Kim Jong-un. Rien ne doit donc pouvoir perturber l'événement. En conséquence, d'importantes mesures de sécurité ont été mises en place. France Inter à Pékin, Sébastien Berriot.
Depuis déjà plus d'une semaine, les habitants de Pékin vivent au rythme des répétitions. Les chars et les soldats de l'armée chinoise ont déjà réalisé le parcours du défilé à trois reprises. À chaque fois, les avenues sont fermées à la circulation. Et plus le jour de la parade approche, plus la vie devient compliquée, surtout dans les quartiers autour de la place Tiananmen, où la présence policière est impressionnante. Sur la célèbre artère commerciale de Wanfujing, des fouilles ont été ajoutées à l'entrée de certains grands magasins. L'activité va progressivement être réduite à néant. En effet, les autorités ont imposé des mesures de fermeture, comme dans ce restaurant.
Notre restaurant sera fermé du 1er au 3 septembre. Ça entraînera évidemment des pertes, mais il s'agit d'un événement d'importance nationale.
Ce livreur, lui, se demande comment il va faire pendant les 5 jours qui restent.
Avant le 3, je pense que nous pourrons continuer à travailler, mais les contrôles vont devenir de plus en plus stricts et ce sera de plus en plus compliqué.
Comme lors de chaque gros événement, des gardes sont positionnés jour et nuit sur tous les ponts de la capitale afin d'éviter toute forme de contestation, comme en 2022 lorsqu'une banderole anti-Xi Jinping avait été déployée sur un pont.
Sébastien Berrio, correspondant de France Inter à Pékin, aux États-Unis, à Minneapolis. On ne connaît pas encore précisément le mobile du jeune homme de 23 ans qui a tué par balle deux enfants et en a blessé 15 mercredi. Mais les autorités ont déclaré que l'auteur voulait plus que tout tuer des enfants. Il était obsédé par cela, dit le procureur de l'État du Minnesota. L'attaque a eu lieu dans une église où des dizaines d'écoliers assistaient à une messe. Sous le coup de deux enquêtes après le décès du streamer Jean Pormanov, la plateforme Kick a accusé hier le gouvernement français de tirer parti de la mort du streamer. La ministre du Numérique, Clara Chappaz, a en effet plus tôt dans la semaine dit vouloir attaquer en justice la plateforme, qui dit avoir été informée de la nouvelle après les médias. Et puis à l'US Open de tennis, la Française Diane Parry file au troisième tour après sa victoire en 3-7 hier. Défaite en revanche du Français Valentin Royer.
Et c'était le journal de Victor Costa-Mounier. Allez vite vous mettre à l'abri, Victor, car la journée s'annonce agitée dans le ciel. L'instabilité arrive par l'ouest, accompagnée d'averses importantes et parfois orageuses. Ce front atteindra la façade dans l'après-midi. Le vent d'ouest, sud-ouest, souffle fort avec des rafales jusqu'à 70 km/h dans le domaine de la Tramontane et sur les côtes aquitaines. La nuit prochaine, une nouvelle ligne orageuse abordera la Corse par l'ouest. Des pluies conséquentes arroseront la Nouvelle-Aquitaine et tout ça fait baisser les températures entre 19 et 28 degrés au maximum. Aujourd'hui, 19 à Brest et Cherbourg, 21 à Paris, Rennes, Clermont-Ferrand et Tours, 22 à Lyon, Bordeaux et Nancy, 23 à Biarritz, 26 à Perpignan et Marseille, 27 à Nice et 28 à Ajaccio.
Le 5-6 sur France Inter.
C'est la rentrée, l'occasion de se replonger dans la playlist avec Délices et avec vous Mathieu Conquet, bonjour.
Bonjour Marion, ravi de vous retrouver.
Ravi également. Et ce matin Mathieu, vous nous parlez d'un morceau sorti d'une bande-son, le nouveau film de Spike Lee.
Oui, c'est le nouveau titre d'A$AP Rocky, de retour aux affaires, mais aux affaires musicales. On parle plus de mode ni de justice. Il revient en musique et dans la playlist de France Inter cette semaine. A$AP Rocky, vous le connaissez Marion, le rappeur oui. de 36 ans, c'est le compagnon de Rihanna, le père de ses enfants, il sort d'un procès, il était reconnu non coupable. L'un de ses gros tubes, on revient à la musique, souvenez-vous, c'était ça. Get it. Text a message, I don't know the number. Flexing on these niggas, every bone and muscle. Envoie un SMS, je ne connais pas le numéro, dit A$AP dès les premiers mots de ce vieux morceau. Drôle de hasard parce que c'est justement au téléphone que va se manifester la voix d'A$AP Rocky dans le film de Spike Lee, Highest to Lowest, qui était présenté à Cannes en juin dernier et qui sortira vendredi prochain, le 5 septembre, sur la plateforme Apple TV. Alors, Denzel Washington incarne David King, une sorte de ponte de l'industrie du disque, à la tête d'un label historique de la musique noire, et au moment où il va signer un gros contrat, ouais. il reçoit un appel mystérieux. Son fils a été enlevé. S'il veut le revoir, il faudra verser une rançon de plus de 17 millions. Bande annonce, vous allez justement l'entendre, cette voix au téléphone, celle du kidnappeur. New mixes of mood music. I need a theme. Theme music. Hey! Wake up, y'all, the king's here. Got to pay back. Buying back, stacking his records. It's a lot of money. There's more to life than just making money. It's integrity, that's what you stand for. What you think? I think you gotta be a little crazy sometimes in this world to get what you want. King David, now ain't this son. I got your full attention now, huh? You finally listening to me.
Et donc ce qu'on entend là, c'est justement le morceau d'Asaproki.
Oui, et puis la voix du kidnappeur Young Felon dans le film. Je vais vous faire écouter le morceau en entier dans un instant, mais voilà, je vous raconte, il y a un dilemme moral qui va se creuser dans le film quand on s'aperçoit que le kidnappeur, qui est joué donc par Asaproki, s'est trompé. Il a enlevé non pas le fils du producteur, mais le fils du chauffeur, son ami. Faut-il risquer la ruine pour sauver un enfant qui n'est pas le sien ? Est-ce que tout est permis pour arriver à ses fins ? Highest to Lowest était présenté à Cannes comme un remake d'un film d'Akira Kurosawa, Entre le ciel et l'enfer. Bon, d'après les critiques à Cannes, c'était plutôt désastre total pour Libération et disque rayé de Spike Lee selon Le Figaro. Et franchement, pour une fois que c'est de la sonde d'accord, moi je suis curieux d'entendre ce qu'en diront les critiques du Masque et la Plume. Toujours est-il que le journal Le Monde, lui, a plutôt aimé et parle d'un film revigorant, plein de bagou, où déborde une nouvelle fois l'amour de Spike Lee pour la ville de New York. Vous vous ferez votre avis. En attendant, remplissez le coffre de l'avant à l'arrière. Hein, c'est un week-end de retour pour tout le monde. Trunks par Young Felon, pardon, Asaproki. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Niggas, they turning sides. Cookie cutter, niggas, soda pop. Yeah, they Canada dry. Fuck a fight, nighty night. If we shoot the five, root them five.
Hit them low.
Niggas, shoot them high, suit and tie.
They crossed the boy so many times, we're crucified. Bumping coops, a nigga in my coupe, my door's still suicide. Shout out to my felons, boy, we caught another felon. Shout out to my felons, boy, we caught another felony. Shout out to my felons, boy, we caught another felony. Young felon, nigga, uptown, fuck you telling me. Back out the trunk from the front to the back. All gold fronts from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Back out the trunk from the front to the back. Yeah, yeah.
See, I ain't killed. You lame and shit. We ain't forget the muscles, they ain't real.
Yeah, yeah,
Trunks d'Asaproki a retrouvé dans la playlist de France Inter et dans la bande originale du film de Spike Lee. Et on vous retrouve, vous, ce soir, Mathieu.
Mais oui, comme tous les vendredis soirs, de retour, l'actu, les sorties de l'été, les disques à venir. Je vous parlerai d'un très jeune chanteur, Marion, qui a 13 ans, mais aussi de Jamie XX, d'un vieux morceau de Terry Callier qui revient au cinéma. Tiens, et je remets le son à ce soir, 21h.
Et on se remet à flot à ce soir. 5h42, le grand reportage ce matin, troisième épisode d'une série consacrée aux maires combattants. Élodie Fauré a rencontré le maire communiste de Méricourt dans le Pas-de-Calais. Il s'appelle Bernard Baude.
Sur les murs de son bureau, le journal L'Humanité, et de sa fenêtre, une vue sur le Terry, achetée par la ville, 1 euro symbolique.
Vous le voyez pas du bureau, mais il y a une bosse. Donc chez nous, ça s'appelle le bossu.
Le Terry de Méricourt, vestige de l'histoire minière. Méricourt, c'est aussi un bastion de la gauche, depuis un siècle sous la bannière du Parti communiste, où Bernard Baude a adhéré très jeune. Sa devise, l'humain d'abord.
Il faut le sortir du slogan. Et j'aime à dire à Méricourt, on vit au-dessus de nos moyens parce qu'on a l'humain qui est là. On fait un village des droits des enfants qui dure une semaine, on a 130 bénévoles. On fait une course sur le Bossu, 140 bénévoles. Vous voyez, on mobilise. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que les bénévoles viennent dire merci.
L'humain d'abord et la culture pour tous, comme ici, dans cet espace baptisé La Gare.
Alors, c'est médiathèque, auditorium et galerie d'exposition et qu'on a voulu traversante.
C'est ce que prône Bernard Baude face à un RN au score impressionnant dans le département. À Méricourt, son principal adversaire s'appelle Laurent Dassonville, ex communiste passé au front en 2008.
Lors d'un meeting de Marine Le Pen, je me suis dit, voilà, c'est là qu'il faut que j'aille, parce que tout simplement, le monde ouvrier est arrivé là, et c'est la seule personne qui défend les salariés et les ouvriers.
Il attaque notamment le maire actuel sur sa politique culturelle.
La culture, je suis pour, mais une culture pour tous.
pas une culture de gauche. Combien de fois les gens nous disent au 14 juillet, il n'y a rien ? Une culture pour tous, c'est Patrick Sébastien qui vient à Salomine le 14 juillet.
Et dernière victoire marquante pour le parti lepéniste, les législatives et le succès d'un quasi inconnu face aux députés de gauche sortants.
Ça fait partie des nuits où on se réveille, on a de l'angoisse. Quoi. Qu'est-ce qui peut se passer, quoi ? Moi, jamais je dirais du mal des électeurs. Ils ont fait un acte citoyen, c'est leur choix. Mais qu'est-ce qui fait qu'on porte son choix sur quelqu'un d'inconnu ? Et Jean-Marc, connu et apprécié, qu'est-ce qui fait qu'il est battu ?
Un traumatisme pour Bernard Baude.
Et dans les rues de Méricourt, Élodie, vous êtes effectivement tombée sur des électeurs déçus de la gauche et qui désormais votent RN.
Oui, parfois les blessures sont anciennes. Michel, ex-salarié de la métallurgie, son usine a fermé dans les années 80 sous la présidence de François Mitterrand. Il n'a jamais pardonné.
La gauche ? Ah ouais, terminé. C'est des faux jetons. Ben nous, notre usine, il y avait des promesses, tout ça. Rien n'a été fait.
Il y a aussi Ibrahim, 58 ans, lui, votait communiste. Et c'est entre autres la condamnation pour détournement de fonds publics de l'ancien maire socialiste d'Hénin Beaumont qui l'a écœuré.
L'ancien maire, il y a 20, 25 ans, 30 ans, il a détourné 2 millions d'euros.
Des réflexions qui n'étonnent pas Bernard Baude.
On a tellement mal fait. Où ils ont tellement mal fait, parce que je m'en sens pas responsable, ils ont tellement mal fait que la seule réponse, à un moment donné, c'était de changer. De changer avec Steve Briouat qui a été élu. Et on a la même recette à Bruet-Labussière. Bruet-Labussière, les forces de gauche, les dirigeants de gauche, n'arrivent pas à se mettre d'accord, ils font deux listes. Au final, c'est le Front National qui gagne. Donc j'ai vraiment le sentiment que le Front National gagne sur de la malfaisance des partis de gauche.
Sur la malfaisance, sur le sentiment d'abandon aussi auquel le maire de Méricourt s'efforce de répondre en créant, malgré les difficultés budgétaires du faire ensemble, dit-il, des moments de cohésion.
À Méricourt, un maire communiste face au tsunami RN. Reportage signé Élodie Forêt. Dernier épisode de la série. Tout à l'heure, 7h13 à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, où le maire veut transformer sa commune en ville de soins.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
Et il est 5h46, l'heure d'un arrière-goût de vacances avec notre invité qu'on appelle dans le Finistère. Bonjour Benoît Heller.
Bonjour.
Formateur bénévole en Longe-Côte, pourquoi vous êtes déjà debout à cette heure-ci ?
Alors, effectivement, je suis formateur en Longe-Côte, mais je suis formateur aussi en entreprise. C'est mon métier et j'aime bien, avant d'aller chez les clients, de relire avec le café mon intervention, d'arriver tôt chez mon client pour préparer ma salle, etc. Donc voilà, j'anticipe ma journée de formateur en entreprise et puis le week-end, effectivement, le Longe-Côte.
Donc vous êtes du matin, vous êtes sportif aussi, parce que le Longe-Côte, on le rappelle, peut-être pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est un sport qui est très à la mode. Vous pourriez nous expliquer ce que c'est exactement ?
Oui, alors c'est vrai que de plus en plus sur nos plages, sur tout littoral en France et même en Outre-mer d'ailleurs, hein, sur nos départements d'Outre-mer, on voit des gens marcher dans l'eau, tout simplement. Et ça devient un sport lorsque on y met un peu d'intensité, on marche un peu plus vite et on respecte ce qu'on appelle une BNI, un bon niveau d'immersion, c'est-à-dire l'eau située à hauteur entre le nombril et les aisselles. Et ensuite, on avance. C'est un sport accessible à tous parce qu'il suffit de marcher dans l'eau avec le respect, effectivement, d'un niveau, d'une hauteur d'eau entre le nombril et les aisselles.
Et donc, je le disais, ça fait 2 ans hein, que vous êtes bénévole dans ce club de Longe-Côte. Donc, le week-end, près de Brest, vous donnez des cours. Donc, le samedi sur la plage qui s'appelle la plage du Moulin Blanc. Ça se passe comment, alors, ces cours ?
Alors, effectivement, je suis dans un club qui s'appelle MABM, Multi-Activité Brest-Moulin Blanc, et effectivement, en semaine et le week-end, alors en ce qui concerne, c'est le week-end, pendant 1 heure, avec nos adhérents, on est dans l'eau, on fait des exercices de vitesse, d'endurance. Par exemple, on fait un jeu qui s'appelle Chasseur-Chassé, où il s'agit d'aller le plus vite possible pour essayer de toucher son partenaire, ou des exercices d'endurance, où on se dit, pendant 1 kilomètre, on va marcher sans s'arrêter et l'idée c'est de faire entre 15 et 20 minutes selon les niveaux.
Donc c'est ludique aussi. Est-ce qu'il y a une saison pour le Longe-Côte, une saison qui se terminerait par exemple à la fin de l'été ou est-ce que c'est toute l'année ?
Alors, le top, c'est d'y aller toute l'année. Parce qu'effectivement, on sait que l'eau, notamment l'eau froide sur le littoral breton, normand...
Et elle est froide dans le Finistère.
Oui, l'hiver, elle est à 8-9 degrés, mais on a une petite combinaison et on se réchauffe très vite dans l'eau. Et le challenge, c'est de faire du longe-côte toute l'année, justement.
Au risque de s'enrhumer, quand même.
Alors justement, pas tellement. Moi, ça fait quelques années que je fais du longe-côte et je passe les hivers bien mieux. Je ne sais pas si c'est un effet immunitaire, mais l'eau froide a des vertus certainement très, très intéressantes parce que je passe les hivers sans encombre et quasiment sans un rhume de l'hiver. Bien sûr, avec une combinaison hiver, hein, évidemment.
Vous faites même de la compétition.
Alors effectivement, le longe-côte est affilié à la Fédération française de randonnée. On est 16 000 adhérents sur 230 000 à la Fédération de randonnée. Et puis, il y a des compétitions, il y a des championnats régionaux, il y a des championnats de France. Le dernier championnat de France a eu lieu à 7. Et d'ailleurs, on avait des représentants de notre club à 7 au championnat de France. Et il y a différentes épreuves chronométrées sur différentes distances.
Eh ben bravo. Est-ce que vous comprenez cet engouement, cette mode du longe-côte qui est de plus en plus pratiquée?
Je crois qu'effectivement, d'abord, c'est accessible à tous. Alors, à partir du moment où on a un lac ou la mer à côté de chez soi, bien sûr, hein, c'est vraiment accessible à tous. On marche dans l'eau, c'est très simple, c'est d'accès très simple. Il n'y a pas besoin d'être grand sportif pour faire ce sport, mais ça devient un vrai sport quand on y met de l'intensité dans l'eau. Et puis, je crois qu'effectivement, l'attrait de la mer, c'est très relaxant, ça fait du bien au rythme cardiaque, sans traumatisme articulaire. Ça fait travailler aussi l'équilibre, parce qu'on travaille dans des vagues, le courant, le sable. Et donc, ça a beaucoup de vertus de bien-être, de convivialité et puis pour la santé.
Et ben, merci beaucoup d'avoir partagé votre enthousiasme, Benoît Heller, 57 ans, formateur en longe-côte. Merci d'avoir été notre invité déjà debout sur France Inter ce matin.
Avec plaisir, merci.
5h51, dans un instant et en ce petit matin, il sera question de nuit dans Café Philo avec Patricia Martin. Mais tout de suite, souriez, c'est vendredi, voici The Cure, Friday I'm in Love.
I don't care if
Friday I'm in love, The Cure sur France Inter.
France Inter. Le 5-6.
Et quoi de mieux pour redémarrer en cette rentrée qu'un café philo? Bonjour Patricia Martin.
Bonjour chère Marion.
Aux premières heures du jour, et alors que nous avons à peine dormi quelques heures, il vous prend l'envie de parler de la nuit.
Oui, c'est en rien une provocation, croyez-le bien. Si vous n'avez pas trop dormi cette nuit, chère Marion, c'est probablement parce que vous aviez peur de ne pas vous réveiller, hein, surtout pour une première. Pour certains auditeurs, c'est parce qu'ils souffrent d'insomnie. Pour d'autres encore, c'est parce qu'ils viennent tout juste de rentrer chez eux, travailler. De nuit peut-être, ou encore noctambule. Ceux-là ont fait la fête et choisi de ne pas dormir. Vivre la nuit, disons plutôt ne pas dormir la nuit, par choix ou par nécessité, est une forme d'égarement. C'est en tout cas ce que pense le philosophe Michael Fossel.
Et donc j'imagine qu'il envisage la nuit de manière philosophique.
Eh bien oui, parce qu'on ne pense pas de la même façon la nuit et le jour. Il existe une loi de la nuit et une représentation de la nuit. Mais attention, hein, la nuit, ce n'est pas forcément les ténèbres. La nuit, c'est autre chose. Un rapport au temps, au secret, à l'égalité. C'est bien connu, la nuit, tous les chats sont gris.
Alors peut-être, sauf que la nuit noire, ça n'existe quasiment plus, en tout cas en ville.
Oui, et c'est bien dommage, car l'obscurité réenchante le monde et brise sa monotonie. Le philosophe Jacques Rancière a étudié de près une période de l'histoire, grosso modo entre 1830 et 1870, pendant laquelle les ouvriers occupaient leur nuit à tout sauf à dormir. On les imagine discutant sous un ciel étoilé.
Pourquoi la nuit? Bon, parce que la nuit était évidemment un moment de rupture, un moment de rupture essentielle. Bon, normalement, bon, ben, un ouvrier, le jour, il travaille, et puis la nuit, il se repose, il refait ses forces, et puis le lendemain, ça repart, quoi. Et donc, j'ai appelé la nuit des prolétaires ce travail qui s'intéressait aux efforts faits par un certain nombre de ces ouvriers pour justement ne pas dormir la nuit, c'est-à-dire pour conquérir sur la nuit du temps pour se réunir, du temps pour lire, pour écrire, pour réfléchir, pour écrire des journaux, pour écrire aussi éventuellement des poèmes ou toutes sortes de littérature. Et j'ai dit que bon, le noyau finalement du renversement du monde, c'est d'abord la capacité affirmée par ceux qui étaient enfermés dans une certaine condition, la capacité affirmée de se faire comme un corps, comme un esprit qui soit en écart par rapport à cette condition. Donc normalement, bon, bah il y a ceux qui ont du loisir, bon, ceux qui travaillent pas, ceux qui sont pas soumis à la nécessité, ceux-là ont du loisir, ils peuvent penser, ils peuvent ne pas dormir la nuit s'ils le veulent. Et puis ces ouvriers qui en principe ne le peuvent pas, tout ça décide qu'ils le peuvent. Et c'est pour ça que, pour moi, cette espèce de conquête sur la nuit, c'était véritablement la racine de l'émancipation, à savoir on change l'ordre du temps lui-même. Quoi.
Le philosophe Jacques Rancière à propos de la nuit. Votre sujet de ce soir dans l'heure philo avec Michael Fossel pour son livre La Nuit, publié chez Autrement, et Luc Giadzinski qui est géographe et spécialiste des Night Club Studies.
Bravo.
Ce sera à 20h10.
Merci Marion Lou.
À ce soir.